Le journal vous est présenté par Charlotte Coutard.
Bonsoir. Nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Au cœur des discussions, une nouvelle fois, Alep et la crise syrienne. Aux États-Unis, des proches de Wall Street, bientôt au gouvernement, Donald Trump dévoile au compte-gouttes les membres de son administration. Le délit d'entrave à l'IVG sera-t-il étendu à Internet? La proposition de loi sera examinée demain par l'Assemblée nationale. Notre invité est le rapporteur du texte, Catherine Coutel. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont peut-être devoir mettre la main à la poche. Les demandeurs d'asile pourront désormais être obligés de payer une caution à leur arrivée en centre d'accueil. Et puis l'État condamné à verser 48 000 euros à un jeune homme blessé lors d'une manifestation. Il avait été touché par un tir de balle en caoutchouc à Nantes. En Syrie, Alep va devenir un gigantesque cimetière. C'est le cri d'alarme d'un responsable de l'ONU, Stephen O'Brien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 250 000 civils sont toujours pris au piège à Alep Est, sans vivres et sans hôpitaux, bombardés par le régime de Bachar al-Assad et ses alliés. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité a eu lieu aujourd'hui à New York, Marie Bourreau.
Cette réunion d'urgence devait une nouvelle fois mettre sur la place publique la tragédie d'Alep à feu et à sang et la responsabilité de la Russie. Mais c'est bien l'impuissance de ce même conseil et son manque d'initiative qui auront marqué cette réunion de plus de 3 heures, qui s'est terminée sans aucune nouvelle perspective. Au contraire, c'est un tableau apocalyptique qu'a dressé le chef des opérations humanitaires, Stephen O'Brien. 25 000 civils ont fui depuis samedi dernier les quartiers rebelles, les blessés, parfois transportés sur des charrettes à légumes pour pallier le manque d'ambulances. Le décompte des morts est difficile, plusieurs dizaines, peut-être plus, dit-il, certains touchés alors qu'ils fuyaient leurs valises à la main. 250 000 personnes, dont un peu moins de la moitié d'enfants, continuent à survivre dans Alep Est, mais plus pour longtemps. Cela fait plus de 5 mois que la ville subit un état de siège et l'ONU n'a pas pu fournir médicaments ou aide alimentaire. Il n'y a plus de limite, plus de ligne rouge à franchir, a déploré Stephen O'Brien. Les règles de la guerre ont été systématiquement bafouées en Syrie. Londres et Washington ont plaidé pour l'adoption rapide d'une résolution humanitaire pour permettre un cessez-le-feu de 10 jours à Alep, mais la Russie a immédiatement douché le peu d'espoir en annonçant que cette résolution était une tactique totalement vaine, promise à un énième veto russe.
Précision à New York de Marie Bourreau de RFI pour France Culture. La Syrie au cœur de tensions entre la Russie et la Turquie. Le président Erdogan a déclaré que son seul objectif est de mettre fin au règne du tyran Bachar al-Assad, allié de la Russie. Moscou a demandé des éclaircissements. Les présidents turcs et russes se sont entretenus au téléphone aujourd'hui, mais on ignore s'il en a été question. En Irak, la bataille de Mossoul se poursuit. Les forces irakiennes tentent de reprendre le dernier grand bastion de l'État islamique. Mais la famine menace les habitants et près de 500 000 civils sont privés d'eau potable. Aux États-Unis, le futur président américain Donald Trump prend son temps pour constituer son gouvernement. 2 noms ont été dévoilés aujourd'hui. Steven Mnuchin sera secrétaire d'État au Trésor. Wilbur Ross sera chargé du commerce. 2 hommes proches de Wall Street et fidèles de Donald Trump, Frédéric Carbone.
Les grandes fortunes sont les bienvenues dans l'administration de Trump et surtout si elles ont su faire preuve de loyauté. Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, et Wilbur Ross, chargé lui du commerce, se sont en effet très vite rangés derrière Donald Trump à un moment où les généreux donateurs ne se précipitaient pas. Le premier a dirigé les finances pendant toute la campagne, alors que le second mobilisait ses réseaux pour organiser des levées de fonds. Le parcours de Steve Mnuchin est emblématique d'une forme de réussite à l'américaine. Ce fils d'un dirigeant de Goldman Sachs a d'abord fait carrière dans la grande banque d'affaires de Wall Street, le symbole aussi de la crise des subprimes. Ensuite, direction Hollywood, où il a créé un fonds d'investissement associé à quelques-uns des plus grands succès récents, comme Avatar ou les X-Men. En venant à Washington, il poursuit d'une certaine manière sa tournée des lieux de pouvoir. Le nouveau secrétaire au Trésor a une priorité, le choc fiscal pour relancer l'économie. On est là dans l'orthodoxie libérale des Républicains, modèle Ronald Reagan. Le taux maximal de l'impôt sur les sociétés devrait être rabaissé de 35 à 15%.
Et sur Twitter, Donald Trump annonce qu'il va se mettre en retrait de son empire immobilier pour éviter les conflits d'intérêts. Il donnera le détail le 15 décembre. C'est une proposition de loi qui fait beaucoup parler d'elle. L'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse sera examinée demain à l'Assemblée nationale. Pour en parler, nous sommes avec la députée socialiste rapporteure de cette proposition de loi. Bonsoir Catherine Coutel.
Bonsoir.
Le délit d'entrave à l'IVG existe déjà depuis 1993. Là, il s'agit de l'étendre sur Internet. Qu'est-ce que vous ciblez précisément avec ce texte ?
Nous ciblons les sites Internet qui, sous couvert d'informations pour accompagner les femmes vers l'IVG, en fait, n'ont qu'un objectif, c'est de les en dissuader, soit par la persuasion, soit par le fait de leur faire peur ou de les en empêcher, éventuellement même par le fait de les harceler. Une fois qu'elles ont appelé, certaines reçoivent ensuite plein de SMS, de coups de fil, avez-vous annulé vos rendez-vous, etc. Jusqu'à ce qu'elles menacent et là ça s'arrête. Donc on voit bien qu'il y a des sites qui masquent leur idéologie et qui donnent l'impression d'être des sites officiels.
Ce sont des sites de propagande que vous avez vraiment clairement identifiés ?
Absolument. Je suis très surprise, nous avons reçu les députés cet après-midi une grande pétition qui dit « Si vous signez la proposition de loi, alors on la signe pas demain, on la vote, hein, demain interdisant les sites internet pro-vie, on sait qui sont les pro-vie, vous signez votre entrée dans l'enfer éternel ». Donc pour eux, c'est clairement des sites idéologiquement contre l'avortement.
Et comment ils procèdent ces sites ?
Comment ils procèdent ? Eh bien, majoritairement, nous nous renseignons sur Internet quand nous avons une question médicale à poser. Et donc, vous voulez avoir un avortement, avoir les premières informations, et vous faites IVG. Et à ce moment-là, ce site qui est très référencé sort en premier. Donc vous appuyez dessus et vous trouvez un site qui vous apparaît quasi un site officiel, avec un numéro vert, un appel gratuit, etc., ce qui est tout à fait autorisé, hein. Mais le problème, c'est quand vous allez plus loin et que vous lisez la littérature qu'ils déclinent, et en particulier les témoignages, y compris des témoignages dont ils disent positifs pour l'IVG, ce ne sont que des témoignages très négatifs. Et puis, on le sait, quand les personnes appellent parce qu'on a eu des témoignages, elles sont dissuadées, comme je vous le disais, elles sont parfois harcelées, etc.
En fait, ce sont les lobbies anti-IVG Absolument. Qui se sont adaptés aux Absolument. Nouvelles technologies qui se c'est sont ça. Déplacées sur Internet.
Ce qu'on va faire, c'est on va globaliser toutes les entraves. En 1990, ça a été une entrave physique, quand il s'attachait aux grilles des cliniques. Donc il y a eu la loi de 93, disons, qu'on condamnait les entraves physiques. Ensuite, il y a eu l'information. Aujourd'hui, on dit toute entrave, psychologique ou physique, pourra être poursuivie comme un délit et punissable de peine de prison et d'amende.
L'objectif, c'est d'interdire les sites, de les fermer ?
Nous ne fermons aucun site. Nous donnons la possibilité à des personnes et à des femmes qui auront été trompées, comme on les a empêchées d'y aller ou qu'on a freiné le fait d'y aller, elles ont passé le délai par exemple, ou elles ont été découragées, qu'elles se disent « mais j'ai vécu une entrave, j'ai pas eu une information celle que je voulais », elles poursuivront les sites devant les tribunaux et aux magistrats d'apprécier s'il y a eu entrave ou non et de quelle gravité est l'entrave pour donner une peine.
Alors les débats s'annoncent houleux hein, demain à l'Assemblée nationale. Une centaine d'amendements à cette loi ont été déposés par des députés républicains du Front National et de la Ligue du Sud. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent que c'est vraiment une véritable atteinte à la liberté d'expression ?
Mais je leur dis qu'ils se trompent de débat et de combat. Notre texte n'est nullement une atteinte à la liberté d'expression. On ne ferme pas les sites, on n'empêche personne ayant des positions anti-IVG de les mettre sur Internet. Ça ne se fera pas l'objet, c'est pas une entrave. On vous annonce clairement, je suis anti-IVG, voilà pourquoi. Point. Ce que nous condamnons, ce sont les gens qui avancent masqués, qui ne veulent pas dire qui ils sont, qui ne veulent pas avouer qu'ils sont anti-IVG et qui donne le sentiment aux femmes ou aux hommes qui se renseignent sur l'IVG d'être sur un site officiel qui leur permet d'aller vers l'accès à l'IVG. Et ça n'est nullement une liberté d'expression, c'est de la fausse information, de la désinformation contre laquelle nous luttons.
Les mots sont durs, hein. Le député maire d'Orange et président du parti d'extrême droite Ligue du Sud, Jacques Bompard, estime que c'est une véritable promotion de la culture de la mort.
Oui, on connaît leur discours, mais non, absolument pas. Alors, effectivement, ces sites, parce que j'en ai reçu, ils nous reprochent de ne pas faire assez de dissuasion. Mais moi, ce n'est pas l'objet de mon travail. Moi, mon travail, c'est de donner des droits aux femmes. Je suis présidente de la délégation aux droits des femmes, je me bats pour les droits des femmes. Et c'est aux femmes d'être juges de leur propre vie. On n'a pas à leur dicter leur conduite parce qu'on croit à telle religion, à telle idéologie, à tel parti politique. Les femmes sont libres de leur choix. Et elles ont le droit de choisir en toute conscience et en bonne foi.
Alors plus largement, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, estime qu'il y a toujours, je cite, un climat culturel qui tend à culpabiliser les femmes voulant avorter. C'est également votre avis ?
Alors, je vais vous dire, pour mon discours de demain, j'ai retrouvé une phrase de Simone Veil de 1995, 20 ans après sa loi. Et elle dit, l'IVG, 20 ans après, n'est plus un enjeu politique. Malheureusement pour nous, elle se trompait. Et le retour à des idéologies réactionnaires, le retour à des populismes, le retour à des mouvements anti-choix, fait qu'aujourd'hui, ce retour, on est à nouveau dans une situation où il faut débattre et se battre sur ce sujet-là. Je n'imaginais pas qu'on puisse revenir au débat de 1976-75.
Merci Catherine Coutel, rapporteure de la proposition de loi sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG, d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Un cinquième patient greffé d'un cœur artificiel Carmat est mort, annonce de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui précise qu'on ne sait pas encore si le cœur greffé est en cause. Mais selon la société française Carmat, la prothèse n'est pas impliquée dans le décès. Ce patient était le premier à atteindre l'étape finale, devant permettre à Carmat d'obtenir le feu vert pour la commercialisation de son cœur artificiel. L'essai clinique a été suspendu. Les demandeurs d'asile mis à contribution, ils pourront désormais se voir réclamer une caution lors de leur entrée en CADA, les centres d'accueil qui leur sont réservés, jusqu'à 150 euros par adulte, 75 euros par enfant. C'est un arrêté du ministère de l'Intérieur qui le prévoit, un arrêté dénoncé par l'association Droit au Logement, Marie-Pierre Véraud.
Risque de tri à l'entrée, avec exclusion des demandeurs d'asile les plus pauvres. Risque de chantage à la restitution de la caution à la sortie. Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole de l'association Droit au Logement, dénonce un arrêté qui jusqu'à présent n'a pas suscité de réaction des gestionnaires de CADA.
Ce qui est un peu choquant, c'est de demander 150 euros par adulte pour des demandeurs d'asile qui, par principe, sont fauchés. Quand ils arrivent en France, ils n'ont pas du tout d'argent, ils n'ont pas le droit de travailler. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des dispositions qui sont prises, beaucoup d'entre eux vont rester à la porte, simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens d'avancer cette caution. Pour ceux qui auront réussi à trouver cet argent, s'ils veulent que la caution soit restituée au moment où l'hébergement prend fin, eh bien il faudra qu'ils quittent les lieux. Faute de quoi, s'ils ne quittent pas dans les délais, la caution sera gardée. C'est une forme de chantage, si vous voulez, là. Même si vous n'avez pas de solution, même si on n'a pas d'hébergement pour la suite, même si on vous remet sur le trottoir, eh bien partez tout de suite, partez immédiatement, sans attendre une décision du juge. Sinon, on ne vous remboursera pas votre caution.
Une pression exercée sur des personnes en situation de grande vulnérabilité, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile déboutés, c'est le cas des deux tiers de ceux qui demandent la protection de la France. Ils ont un mois pour libérer les lieux, ou de demandeurs d'asile devenus réfugiés qui ont, eux, trois mois pour partir. Mais les tensions sur le parc de logement font que l'Office français de l'immigration n'a pas toujours de toit à leur proposer. Ils restent donc en CADA plus longtemps que prévu. Or, les places manquent aussi en CADA pour accueillir tous les demandeurs d'asile, contrairement à ce que requiert la loi, d'où cet arrêté qui vise à faire tourner plus rapidement les places, tout comme l'on accélère l'examen des demandes d'asile, aller plus vite, vider plus vite, expulser davantage, faute de s'être mise en situation d'accueillir dignement, même si le nombre de places a été considérablement augmenté durant le quinquennat.
Précision de Marie-Pierre Véraud. L'État condamné par le tribunal administratif de Nantes, reconnu responsable de la blessure d'un jeune homme, Pierre Douillard. C'était en 2007 lors d'une manifestation lycéenne. Il avait perdu un œil, blessé par un tir de balle en caoutchouc. L'État a commis une faute selon la justice en autorisant l'usage de cette arme et va devoir verser au jeune homme 48 000 euros. Mais Pierre Douillard va faire appel car les juges ont également estimé que la faute est partagée à 50% entre lui et le policier tireur, insupportable pour l'ancien lycéen.
C'est évidemment inadmissible et obscène au bout de 9 ans de procédure d'entendre ça. Donc là, on voit qu'on sort totalement du droit, on sort totalement de la loi. C'est une interprétation qui est politique. C'est-à-dire que si on ne quitte pas une manifestation assez vite, on s'expose à être mutilé en faisant un partage de responsabilité à 50%. On a des juges à Nantes qui inventent un nouveau délit, la non-désolidarisation de manifestation, et qui pourraient justifier d'être mutilé. Donc ça, c'est très grave. 50-50, ça veut dire pour les juges qu'il y a comme s'il y avait une responsabilité équivalente. Ce qui est quand même impensable pour nous et abject. Comment on définit ce pourcentage? D'où sortent ces 30%? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait un fumigène, on a 20%. Si on chante « Tout le monde déteste la police », on a 15% de responsabilité quand on est mutilé. Donc, jamais le barème n'a été défini ni par le rapporteur ni par les juges.
Et je vous rappelle que le policier, lui, a été relaxé à l'issue de son procès en correctionnel. Arnaud Montebourg va ouvrir le bal. Il va déposer officiellement demain sa candidature à la primaire de la gauche en vue de la présidentielle. Les candidats auront 15 jours pour se présenter et remettre les parrainages requis. De son côté, François Hollande doit annoncer dans les prochains jours s'il est candidat ou non à sa succession et s'il participe à la primaire. Benoît Hamon, qui sera également candidat, demande au président de clarifier ses intentions. La météo demain, il va faire froid. Attention aux gelées, en particulier de la Normandie à l'Alsace, en passant par le centre et la Bourgogne-Franche-Comté. Ce sera couvert du Lyonnais à la vallée de la Loire, surtout le matin. Des nuages aussi pour le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes. Ailleurs, il pourrait y avoir des bancs de brouillard, parfois lents à se lever, mais globalement, le ciel sera très ensoleillé. Les températures resteront basses, de 4 à 7 degrés le matin, 13 à 15 pour le sud l'après-midi.